RMC, face aux grandes gueules.
C'est le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les grandes gueules.
Merci.
Prof, aujourd'hui, c'est un métier dangereux.
C'est un métier qui, malheureusement, parfois peut l'être. Il ne l'est pas structurellement. Quand l'immense majorité des professeurs, fait cours dans des conditions normales, mais on a eu des drames ces dernières années qui montrent que, malheureusement, parfois, les professeurs ne sont pas à l'abri des maux de la société, que parfois les maux de la société entrent dans l'école, et malheureusement, parfois jusqu'à des drames qu'on a tous en tête.
Justement, ce drame, l'assassinat d'Agnès Lassalle, puisque le procès du meurtrier, c'est en ce moment même devant la cour d'assises de Pau, c'était il y a 3 ans. Cette professeure d'espagnol de 53 ans a été poignardée par un élève en pleine classe. Et on se souvient de ces images bouleversantes de son compagnon qui dansait seul face à son cercueil le jour de ses obsèques. C'est un drame qui avait ému les Français. Et on se dit, 3 ans après, est-ce que la menace qui pèse sur ces profs, notamment ces attaques au couteau, est-ce toujours une réalité? Qu'est-ce que vous, en tant que ministre, patron de l'administration, vous avez fait pour mieux protéger nos enseignants?
Alors aujourd'hui, on contrôle, comme vous le savez, très massivement, on fait des contrôles aux établissements. Donc on a fait 20 500 contrôles depuis un an. On a augmenté la cadence, on est à quasiment 2 500 contrôles par mois actuellement, pour précisément faire des fouilles de sacs, etc. Donc concrètement, on a trouvé un peu moins de 800 armes blanches, au sens large. Hein. Couteaux, cutters, enfin tout ce qui peut, du meilleur ou d'une autre, servir d'arme blanche a été identifié. C'est évidemment beaucoup trop. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des jeunes à qui il semble naturel de se balader avec un couteau ou un cutter dans leur sac. Et donc c'est pas normal. Et donc j'allais dire cette partie-là, qui est la partie entre guillemets symptomatique. On fait tout évidemment pour enrayer ce processus, mais l'amont aussi. Et pardon d'y revenir, mais c'est important. Hein. Le couteau avant d'aller à l'école, il a quitté la maison. Hein. Bon.
Donc la responsabilité aussi des parents.
Responsabilité collective. La violence avant d'aller à l'école, elle est aussi à l'extérieur. Et donc, il faut qu'on travaille collectivement sur le fait, et moi je suis absolument catégorique là-dessus, qu'on ne touche pas à l'institution scolaire et qu'on ne touche pas à un professeur. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un problème collectif, c'est que si vous voulez, à force de, vous voyez, toujours un peu décrédibiliser, moquer, relativiser, etc., etc., on a un peu désacralisé la figure du professeur.
Qui relativise, qui se moque des profs?
Collectivement, à commencer par le fait qu'on dise, pour la plupart d'entre nous, on dit prof. Pardon, c'est le seul métier que je connaisse pour lequel on emploie un diminutif. Ils sont professeurs.
Un prof, c'est péjoratif pour vous?
C'est pas forcément péjoratif, j'observe que c'est un diminutif et que c'est le seul métier pour lequel on emploie un diminutif. Il y a des métiers pour lesquels on emploie des surnoms. Oui. Il y a peu de métiers, en tout cas je ne connais pas d'autres, pour lesquels on diminue le nom. Ils sont professeurs. Ils représentent une institution et ils ont dédié leur vie à former nos enfants ou ceux des voisins. Et rien que pour ça, si vous voulez, pour moi, le respect est absolument catégorique. J'ai vu la semaine dernière, vous avez vu aussi les propos d'un député Rassemblement National qui parlait des professeurs mal coiffés ou je ne sais quoi, enfin des profs mal coiffés.
Oui.
Non, quoi.
J'ai pas
on
ne
peut pas, on peut pas aspirer à restaurer l'autorité d'un côté et à dire de l'autre
que on n'a pas été un peu responsable de tout ça. Quand je dis, c'est-à-dire les profs eux-mêmes, la communauté éducative,
c'est collectif.
Parce qu'on a dit, il faut arrêter que le prof soit sur son piédestal. D'ailleurs, on a supprimé les estrades. On a dit maintenant, il faut que ça soit plus horizontal. On a désacralisé aussi cette fonction-là. Peut-être qu'avant, on était trop dans le prof qu'on mettait pas en cause, tout puissant dans la classe, mais maintenant il est impuissant dans sa classe.
Alors, heureusement, il n'est pas encore impuissant dans sa classe, et puis on travaille à ce qu'il ne le soit pas. Mais la société a changé. Et donc, moi, quand j'entends les gens qui me disent les lycéens de la République et tout ça, il ne faut pas faire de nostalgie sur des anciennes figures ou des anciennes pratiques pédagogiques. Il ne faut pas faire de nostalgie. En revanche, il y a quelque chose pour moi qui est non négociable, y compris en termes de sanctions et y compris en termes de poursuites pénales, c'est qu'on ne touche pas un professeur. C'est tout. La figure du professeur, elle est intouchable.
Mais Joël Dagossé.
Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, sur le respect qu'on doit aux professeurs en tant qu'élève, mais aussi en tant que parent, parce que vous savez qu'il y a des parents qui débordent en termes d'intrusion dans les cours, dans ce que les cours doivent être, et aussi même dans la notation. J'ai une sœur enseignante et ma sœur et puis d'autres collègues à elle, sur la question du respect, se sentent d'abord dérespectés par l'institution avant les élèves.
Exactement.
Par exemple, quand vous faites un bac plus 5, vous faites de très longues études et qu'on vous embauche à 1600 ou à 1700 et qu'au bout de 8 ans ou 9 ans, vous arrivez à peine à 2000 euros, bah, et que vous gérez des classes de 30 élèves, vous êtes en totale autonomie. L'avenir de la France, oui. et qu'on vous paye, pour moi, j'appelle ça être payé au lance-pierre au regard de l'investissement, mais aussi du rôle dans la nation. Bah, vous vous sentez dérespecté.
Donc respecter les profs, c'est aussi mieux les payer.
Complètement, oui. Mieux les payer par l'institution.
Les professeurs.
Alors, et aussi, je vais rajouter autre chose dans ça. Sur les contractuels, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut 6 ans à un contractuel pour être en CDI, alors même qu'il est inspecté très régulièrement par l'institution, alors même qu'il a un dossier, donc on peut savoir si c'est un bon professeur ou pas. Pourquoi est-ce qu'il lui faut 6 ans pour être stable? Pourquoi est-ce que quand on est contractuel, par exemple, on peut rester le premier mois ou le deuxième mois sans salaire? Vous voyez, moi, c'est des situations très concrètes. Moi, j'ai une sœur dans l'enseignement. Donc
l'institution ne respecte pas ses employés.
Et pourquoi est-ce que les professeurs ont des difficultés à avoir accès au rectorat, ne serait-ce que pour avoir quelqu'un en ligne? Tout ça, en fait, ce ne sont pas ni les élèves ni les parents, c'est l'institution. Donc moi, je veux savoir, est-ce que vous, en tant qu'institution, pas vous personnellement, mais l'institution, voilà, quel est le respect qu'elle accorde concrètement aux professeurs?
Alors, Édouard Geffray, ministre de l'Éducation, vous répond.
Alors, d'abord, juste pour dire qu'effectivement, le respect des professeurs et des personnels en général, hein, parce qu'il n'y a pas que des professeurs, il y a 400 000 personnels aussi qui ne sont pas des professeurs de l'éducation nationale, il doit être dû par tout le monde. Vous avez cité les parents, vous avez cité l'institution. Sur l'institution, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que l'institution doit respecter ses professeurs. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, un professeur qui part en retraite, il reçoit un arrêté marqué « Vous êtes radié des cadres à compter du 1er septembre ». Bon. J'ai demandé à tous les recteurs de France de changer les pratiques, d'écrire des lettres personnalisées pour remercier les gens pour leur carrière et d'avoir, à ce point, construit l'avenir de notre pays. C'est tout bête, mais c'est une première marque de respect. La rémunération, alors maintenant on commence à 2100. 1600, c'était il y a 8 ans justement. Donc c'était au début du quinquennat Macron et maintenant on est à 2100 quand on commence. On a indéniablement une question de rémunération des professeurs en France. On a indéniablement aussi, comme vous le savez, une question budgétaire. Donc je ne suis pas tout à fait...
Oui, mais il y a moins d'élèves.
Par rapport à qui je ne suis pas tout à fait libre. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement au cours des... On sait déjà ce qui a été fait, je veux dire, de 1600 à 2100 euros, mais tout l'enjeu, c'est de revaloriser notamment les premières moitiés de carrière. Parce qu'en réalité, c'est là qu'il y a une longue stagnation de la rémunération qui est objectivement qui est pas encourageante quand t'es professeur, quoi. Voilà. Donc ça, on va y travailler. J'y travaille déjà. J'ai pas les marges de manœuvre budgétaire pour l'instant.
J'ai une proposition à vous faire parce que vous avez dit vous-même que nous allons perdre 1,7 million d'élèves d'ici 2035 puisque on voit bien que la natalité est en berne. Donc ça veut dire moins d'élèves. Vous avez besoin de moins de profs. Donc si vous avez moins de profs, moins d'enseignants, déjà il y a 5000 postes qui vont être supprimés.
4000.
Mais bon, c'est peu par rapport à ce qu'il faudrait sans doute par rapport aux chiffres que vous-même vous avez donné. Hein. Peut-être que là, il faut en profiter pour avoir moins de profs et peut-être mieux les payer. Est-ce que moins de professeurs et mieux les payer?
Alors d'abord, c'est une trajectoire à 10 ans.
Oui.
C'est pas une trajectoire pour l'entrée prochaine.
Hein. Non.
Bon. Et précisément, ce que j'ai fait, c'est que c'est la première fois qu'on donne des chiffres à 10 ans sur la démographie. D'ailleurs, qu'on les produit. Hein. Et j'ai fait faire ça pour que, précisément, on se donne une vision un peu de long terme. Parce que si vous voulez, moi, aujourd'hui, l'enfant qui rentre en maternelle, il est pour 15 ans le système éducatif. Mmh. Donc, il y a un moment, il faut prendre un tout petit peu de recul par rapport à l'actualité et se dire comment je me projette sur l'avenir. Bon. On va pas supprimer des postes de professeurs à due proportion de la démographie. Si on fait ça, on ferme des milliers d'écoles et on va abîmer un système.
Ouais. Donc, on va laisser des écoles ouvertes alors qu'il n'y aura plus d'élèves.
Non, on va, mais il y a deux choses à faire. D'un côté, il faut tirer les conséquences de chute démographique. Il y aura probablement un peu moins de professeurs au cours des prochaines années. Assez malheureusement mécanique. Si je prends Paris qui perd 30% de ses élèves au cours des 10 prochaines années, j'imagine que dans 10 ans, toute majorité confondue, il y aura moins de professeurs à Paris qu'aujourd'hui. Simplement, il faut aussi, entre guillemets, profiter de l'aubaine démographique. C'est pas une bonne nouvelle par ailleurs. Pour l'école, il faut profiter de l'aubaine. À la fois pour améliorer le taux d'encadrement.
Ah bon?
Et puis, oui, parce qu'il y a des endroits où on a besoin de l'améliorer. Vous avez encore, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore des classes à 30 élèves. J'ai aussi des classes en France à 9 ou 10 élèves. Vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre. Alors ça, tout ça fait des moyennes qui sont plus ou moins correctes, mais en attendant, il y a des déséquilibres. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à la fois à compenser le déséquilibre, à travailler sur la qualité.
Il n'y a pas moyen de récupérer de l'argent, c'est ça que je voulais faire, de faire des économies, mais utiliser cet argent ailleurs.
On a peut-être
besoin de moins d'écoles, mais plus d'EHPAD, par exemple. Non, mais c'est pas
la France
formule.
De demain, ça fait rêver.
C'est une France
moins d'écoles,
vieille.
Plus d'EHPAD. Un beau slogan de campagne.
La faute, c'est les Français qui ont plus d'enfants.
Non, moi, si ça ne vous dérange pas, c'est tout pour la jeunesse, mon slogan. Mais chacun le sien.
Bah, vous ne pouvez pas obliger les gens à faire des enfants s'ils ne veulent plus en faire.
Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est permettre à ceux qui en veulent de les avoir. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas d'obliger les gens à avoir des enfants, c'est de faire en sorte que les gens qui en veulent puissent en avoir. Et pour ça, il faut leur redonner un tout petit peu espoir. Et l'école, ça fait partie de l'espoir. Quand j'ai une école pas trop loin de chez moi, qu'elle est de bonne qualité, etc., etc., ça fait partie de l'espoir.
Ce qui fait partie de l'espoir, c'est que nos enfants s'en sortiront mieux que nous.
Oui.
Or, c'était même plus qu'un pari. C'était un contrat qu'on passait dans l'école de la République. Ben, ce contrat n'est plus rempli. L'ascenseur social ne fonctionne plus.
Alors, ça nécessite d'être un tout petit peu de...
Combien d'enfants ouvriers dans les grandes écoles en ce moment? Le taux a reculé.
Oui, alors ça c'est vrai, le taux a reculé, mais vous voyez, typiquement, vous dites quoi, on peut poser la question pour combien de jeunes issus défavorisés ou fils d'ouvriers, etc., chez les hauts fonctionnaires. On a généralisé les prépas talents, on a désormais des milliers de jeunes qui sont issus défavorisés, qui vont devenir hauts fonctionnaires demain, et qui le sont même déjà parce qu'ils sont en train de réussir les concours. Donc, on n'est pas condamné à l'impuissance, hein. Enfin, pardon, c'est pas parce que depuis 40 ans, on a un certain nombre de choses qui ont régressé sur notre contrat social, et je suis d'accord, c'est un contrat social. Qu'on n'est pas capable de le tenir et qu'on est condamné à l'impuissance.
Oui,
donc maintenant, soit on se remonte les manches et on bosse pour les 10 prochaines années, soit on se dit, ah là là, ça va très très mal. Moi, je préfère dire aux gens, on va se bouger pour les 10 prochaines années. D'ailleurs, on redonne une perspective, d'où le fait que je suis sorti sur 10 ans. On redonne une perspective.
Les 10 prochaines années.
Mais il faut y croire, quoi.
En 2027, il y a des élections. C'est-à-dire que vous venez d'arriver, je comprends, vous êtes plein d'optimisme et de. Mais on est à un an de la fin d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc, il y aura une nouvelle majorité, une nouvelle équipe,
oui, mais
des nouveaux projets.
Voyez, enfin, moi, ce que j'espère, pardon.
Combien de ministres d'éducation depuis qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017? Je crois qu'on bat un record.
J'ai la chance d'être le 8e.
Le 8e, vous voyez. Mais comment, quand on change comme ça autant de ministres d'éducation avec chaque fois des projets, de la volonté, comment peut-on avoir une vision à long terme, et vous la souhaitez, alors qu'on a changé de ministre quasiment tous les ans?
Mais il y a deux choses différentes. Il y a le sujet des réformes. Moi, j'ai dit dès le départ en arrivant, il n'y aura pas de réforme, Geoffrey. Parce que ce ministère n'a pas besoin de réformes actuellement, il y en a déjà eu suffisamment. Et puis il y a le sujet de méthode et de travail à long terme. Moi, ma conviction profonde, si vous voulez, aujourd'hui, un enfant qui rentre en maternelle, personne ne se pose la question de savoir comment il doit sortir quand il aura son bac dans 15 ans. Or, pour moi, c'est ça la vraie question.
Oui.
Donc, j'essaie juste de faire en sorte qu'en termes de méthode, à la fois en termes de prévisibilité et en termes de méthode, et ça, c'est vrai, ce sera pour tous mes successeurs s'ils décident de réutiliser ces outils-là, on fasse en sorte de voir les choses à 10 ans ou à 15 ans. Après ça, ils perdent des visions politiques différentes. Et ça, c'est normal, c'est le propre de la démocratie. Mais il faut que ces visions politiques, qu'elles soient de gauche, de droite, machin, ça m'est égal. Il faut qu'elle soit à 10 ou 15 ans, parce que c'est cet horizon-là qu'on pense l'école.
Alors, les questions des grandes gueules dans un instant, des questions d'actualité, notamment après la mort de ce stagiaire qui a été écrasé par un chariot élévateur, ça s'est passé vendredi dernier, et ça pose la question des conditions de sécurité de l'accueil des jeunes en entreprise. Des questions également sur votre volonté d'un retour de l'exigence, notamment en matière d'orthographe et de grammaire. Et vous écouterez ce que disait Cécile Duflo de matin sur RMC. Elle n'est pas d'accord avec cette exigence. C'est pas très grave. Bon, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules avec Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, qui est face au GG ce matin, face à Joël Dagossi, Richard Consigny, Laura Barton-Martinez. On va entendre vos questions, mes chers grandes gueules, mais j'ai moi une question d'actualité, et je voudrais pas l'oublier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de ce lycéen stagiaire survenu ce vendredi dans le Gard. C'est un stagiaire de 15 ans qui est mort écrasé par un chariot élévateur. Ça s'est passé à Bagnols-sur-Cèze. Ça pose la question des conditions de sécurité de l'accueil des jeunes en entreprise, avec tous ces stages, toutes ces entreprises, de l'encadrement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer?
Alors d'abord, je me permets juste de le dire, parce que c'est important, mais et parce qu'on a tous été quand même très ébranlés par la mort d'un élève. Enfin, pour nous, c'est l'impensable, si vous voulez. La mort d'un élève, c'est le drame absolu pour n'importe quelle communauté éducative, et évidemment, on est en sympathie absolue avec sa famille. Il y a un enjeu qui est, pour nos élèves, de faire des stages en entreprise. Vous en accueillez ici, j'imagine, chaque année. C'est un enjeu d'égalité des chances. Et donc, c'est important qu'un élève puisse découvrir ce qui se passe dans un milieu professionnel, parce que c'est le seul moyen pour qu'il ne reproduise pas, finalement. On parlait tout à l'heure de la promotion sociale. Bah, c'est un des moyens de ne pas reproduire, justement, ce que font ses parents, ses frères et sœurs, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est bien des stages d'observation en troisième et en seconde. Et qu'un stage d'observation, normalement, on n'est pas censé agir. On n'est pas censé faire des branchements électriques si on est ici à la télévision ou à la radio. On n'est pas censé conduire un chariot élévateur, etc. Donc là, ce qu'on fait, on fait deux choses. D'abord, il y a effectivement une enquête sur les circonstances
de l'accident. Il y a peut-être une faute. Ce jeune n'aurait pas dû utiliser ce chariot élévateur. Je rappelle qu'il était dans une entreprise spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction.
Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a une enquête pénale qui est actuellement en cours, et une enquête administrative des deux côtés des uns. Inspection du travail pour voir ce qui s'est passé l'entreprise, inspection de l'éducation nationale pour voir ce qui s'est passé du côté de l'éducation nationale. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il était sur un chariot élévateur, il n'aurait jamais dû y être.
Bah non, il faut un permis pour les conduire.
Ça, c'est très clair. Voilà. Bon. Donc, nous, indépendamment de l'enquête sur cette affaire, ce qu'on est en train de faire avec Jean-Pierre Farandou et Sabrina Roubache, c'est qu'on lance une enquête conjointe des deux inspections affaires sociales et éducation nationale, pour faire court, pour précisément voir comment mieux sécuriser encore les stages de mineurs en milieu professionnel. Parce qu'il y a probablement des choses qui ne sont pas totalement connues, perçues. Est-ce qu'une entreprise, vous voyez, quand elle accueille un jeune stagiaire, est-ce qu'elle se dit, attention, il est en observation, il ne peut rien faire d'autre, entre guillemets, que s'asseoir, observer, poser des questions? Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'elle en ait complètement conscience. Donc il y a des choses comme ça, il y a probablement des choses comme ça à régler. La preuve, c'est que si un drame comme ça a pu arriver, c'est qu'il faut le faire, pour éviter que, évidemment, ça se reproduise.
Ouais. Et il faut pas que ça dissuade non plus les entreprises de prendre des jeunes. Bah, en disant, moi, je vais pas prendre de risque, donc zéro jeune.
C'est une question de bourse.
Alors, d'autres questions sur d'autres sujets. Charles Consigny.
Alors, ben, il y a beaucoup de sujets. Moi, je vois quand même deux, trois grands sujets. Beaucoup de professeurs quand même le disent, notamment au collège. C'est tout bête, hein. Les collégiens ont trop de cours. Ils ont trop de cours dans la journée, ils sont assommés l'après-midi, ils ont du mal à suivre et on leur demande un temps d'attention sur la journée qui en fait ne permet pas vraiment de leur prodiguer l'enseignement nécessaire. Donc beaucoup de gens, et je pense que ça vaut aussi pour les parents d'élèves, aimeraient qu'on s'inspire des modèles anglo-saxons avec des cours le matin et d'autres activités l'après-midi, du sport, que sais-je, pour aérer un peu tout ça. Première question. Et deuxième question, dans la même logique d'aérer un peu tout ça, est-ce que on ne pourrait pas faire un peu davantage rentrer la société au collège et au lycée? Parce que moi, je suis très frappé par ça. Souvent, les lycéens, notamment dans les milieux un peu défavorisés, en fait, ne savent pas ce qu'ils pourraient faire comme métier, n'ont pas l'horizon très dégagé. Ce qui peut-être explique un peu le décrochage, l'absentéisme, le fait qu'il y en ait qui comprennent même pas l'intérêt de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on leur enseigne tout ça, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage inviter la société à rentrer dans le collège ou le lycée, c'est-à-dire à venir soi-même à remplacer des profs par moment ou à enseigner certaines matières pour ceux qui sont qualifiés pour le faire, y en a quand même, ou en tout cas venir présenter des métiers, des secteurs d'activité pour donner des perspectives aux jeunes. Je trouve qu'en l'état, tout ça est un peu trop étanche au reste de la société.
Alors,
c'est deux questions.
Deux questions assez vastes. Sur la première question, vous savez qu'il y a eu la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui sont notamment penchés sur cette dimension-là, c'est-à-dire le volume d'heures de cours par jour, etc., etc. Bon, on a un sujet en France, c'est qu'on a beaucoup d'heures de cours par semaine, sur un nombre de semaines plutôt plus limité que les autres. Donc on a plus, les élèves ont plus de vacances dans l'année en nombre de semaines, et par contre ils ont beaucoup plus d'heures de cours dans la journée.
Tout est concentré.
C'est plus concentré que chez nos voisins globalement. Hein. C'est pas une science exacte, mais enfin globalement c'est plus concentré. Donc parlons comme ça, c'est pas pour renvoyer le calendrier, mais enfin typiquement c'est un sujet pour moi de présidentiel 2027. C'est-à-dire que je peux pas changer les choses pour la rentrée 2026. Ça pose en fait tout un tas de questions. Ça pose la question de la prise en charge des enfants une fois qu'ils sont dehors.
Mais vous, quelle est votre conviction? Parce que tout le monde a un avis sur les rythmes scolaires.
Ah oui, ça.
Difficile de mettre tout le monde d'accord. Il y a les intérêts divergents, le tourisme pour les vacances, les parents qui ont aussi leur propre rythme, les profs, etc. Vous, à votre avis, est-ce qu'il faut tendre effectivement à une idée où il y aurait les cours principaux le matin et l'après-midi, on ferait plus du sport, la culture, des choses?
Alors, d'abord, à l'école, dans le premier degré, c'est déjà ce qui se passe. Hein. Les professeurs font français et les mathématiques le matin et ils font les autres cours l'après-midi parce que, voilà. Bon, donc c'est quand même un peu ça qui se pratique dans la vraie vie des vrais professeurs. Mais au collège, c'est plus difficile parce qu'il faut croiser les emplois du temps de tous les professeurs et faire en sorte que ça rentre dans la chaussure. Moi, ma conviction profonde. D'abord, sur les rythmes scolaires hebdomadaires, vous savez, 4 jours, 4 jours et demi. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément favorable à une remise en cause profonde de la situation actuelle qui est plutôt 4 jours, sauf si ceux qui le souhaitent font 4 jours et demi. Parce que ça pose tout un tas de problèmes. Et qu'au bout d'un moment, en fait, les problèmes qui sont liés à la situation des parents, etc., finalement, contrebalancent le bénéfice pour l'enfant. On n'a aucun doute sur le fait qu'un enfant, il apprend mieux le matin. Simplement, si tout ce qui est autour de lui est moins favorable, on n'y arrive pas. Donc, c'est un truc qui se travaille. À mon avis, qui se travaille aussi au niveau local. C'est pas la même chose si je suis au bord du fleuve Moroni et si je suis en plein cœur de Paris.
On peut décentraliser.
En tout cas,
l'éducation
avoir une approche
nationale, toujours un peu de mal à faire.
Mais moi, pour moi, avoir une approche territoriale, c'est ce qui s'impose dans la matière. Si vous voulez. Je suis pas favorable au niveau national à dire c'est 4 jours et demi pour tout le monde ou 4 jours pour tout le monde. J'y crois pas tellement. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin probablement que nos ados commencent un peu plus tard le matin. Plutôt à 9h qu'à 8h. Ça, c'est des choses qu'on est en train de promouvoir auprès de nos chefs d'établissement. C'est pas toujours possible, hein. Ça rentre pas non plus toujours dans la chaussure. Une fois encore, si je prends ma pirogue sur le fleuve Moroni, mes gamins, ils arrivent à 7h du matin au collège. Donc là, c'est l'inverse. On ouvre pour pas qu'ils soient dehors. Et pour répondre à votre deuxième question, je fais le lien du coup entre les deux. L'école, c'est ni un bunker, ni une passoire. Ça peut pas être un bunker, parce qu'il faut effectivement, elle est au contact, elle est perméable à la société. Ça peut pas non plus être une passoire dans laquelle tout le monde rentre, si je peux dire, n'importe comment et sans contrôle. Ça renvoie à d'autres sujets qu'on connaît, mais voilà. Donc, là aussi, c'est une question d'équilibre. On fait, pour répondre très précisément à votre question, ce qu'on appelle la découverte des métiers au collège, dès la cinquième. C'est-à-dire qu'il y a des demi-journées qui sont organisées pour que les élèves puissent rencontrer des intervenants extérieurs, des chercheurs, des scientifiques, des industriels, des ouvriers qualifiés, tout ça, pour qu'ils puissent s'ouvrir à la diversité des métiers. Notre objectif, grosso modo, pour faire simple, c'est qu'aujourd'hui, un élève, il connaît en fin de troisième 15 métiers. Notre cible, c'est que d'ici 3 ans, ils en connaissent 50. Au sens qu'ils soient capables de parler de 50 métiers différents.
Alors, le retour de l'exigence. Vous avez demandé aux professeurs de toutes les disciplines d'être vigilants sur notamment l'orthographe et la grammaire. Et vous voulez ce retour de l'exigence qu'on sanctionne aussi quand il le faut, les fautes d'orthographe, les fautes grammaticales, et pas seulement d'ailleurs au moment du brevet et du bac. À ce sujet, Cécile Duflot a pris la parole ce matin sur RMC. Écoutez ce qu'elle dit.
La langue et l'orthographe française, c'est souvent illogique et absurde. Je vous donne un exemple. Chariot et charrette, ça vient du même mot, mais chariot, il y a un seul R, charrette, il y a deux R. Pourquoi ? Zéro raison. Mais c'est un puissant outil de distinction sociale et ça a même été créé pour ça. Si on regarde d'ailleurs le Littré, un grand dictionnaire historique, on voit qu'il y avait plein d'orthographes acceptées pour le même mot jusqu'au 18e, 19e et ensuite on a fossilisé l'orthographe et c'est devenu un outil grâce à la dictée de sélection scolaire. Il faut se dire que le vrai sujet de la langue, c'est de se comprendre. Donc cette obsession de l'orthographe, en fait, c'est une obsession un peu dysfonctionnelle et surtout si elle conduit à empêcher des gens qui ont de grands talents de pouvoir continuer, là ce serait vraiment une faute. En fait, un ministre de l'éducation qui sait pas trop quoi dire, il dit vive la dictée et ensuite il dit on va rendre l'orthographe obligatoire au bac.
Voilà, vous savez pas trop quoi dire alors visiblement Edouard Geffray.
Oh bah je connais un peu mes sujets mais c'est pas grave, on va pas répondre à ça, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la façon dont le sujet a été déformé. J'ai dit orthographe, grammaire, syntaxe. C'est le cumul des trois, c'est-à-dire la maîtrise de la langue. Parce que la première inégalité professionnelle, quand vous passez un entretien, quand vous faites un CV, quand vous faites une lettre de motivation, c'est la maîtrise de la langue. Donc, on peut se gargariser tous les jours hein, à parler d'égalité des chances, de machin, le cœur sur la main, tout ça. Si à la fin, on renonce à l'exigence sur la maîtrise de la langue, on envoie les gens au casse-pipe. Et c'est quelqu'un qui connaît assez bien ces sujets-là qui vous le dit. Donc, mais c'est intéressant, parce que du coup, tout le monde part en fixette sur l'orthographe. L'orthographe, d'abord, il y a eu une réforme d'orthographe en 1990, ça n'est pas resté figé depuis le Littré. Et ça a précisément, c'est vivant l'orthographe, la langue est vivante. Et il n'y a pas que l'orthographe. La grammaire et la syntaxe en revanche, moi ce que je dis c'est qu'un élève qui ne relit pas sa copie et dont le niveau d'expression est calamiteux, il y a un moment où il faut que notre devoir, et c'est pas par plaisir, hein, mais notre devoir c'est de dire bah, en fait, cette copie-là, elle peut pas avoir la moyenne. C'est tout. Pas non plus révolutionnaire hein, comme truc. D'ailleurs, j'ai dit ça. Enfin, c'était pas ni une annonce ni une politique générale. J'ai juste dit, il y a un moment, il faut avoir ce qu'on appelle une juste
pourquoi
exigence.
Pourquoi on a un peu abandonné le combat à un moment donné?
Je pense qu'on a un peu abandonné. C'est très progressif en réalité. C'est un truc qui s'est un peu installé et en se disant, bon, de toute façon, voilà, aujourd'hui, les jeunes, ils ont moins besoin.
Il y a la méthode globale qui a fait des ravages, hein, surtout.
Alors ça, c'était oui.
Oui, mais c'est
vieille génération.
Mais en tout cas, il y a
ma génération.
Je pense qu'il y a une espèce d'affaiblissement collectif de ce point de vue-là, assez partagé d'ailleurs. C'est-à-dire que les parents disaient aussi de tous quoi. On se dit bon, c'est moins important. Mais en réalité, c'est pas moins important parce que et a fortiori aujourd'hui, hein, dans un monde où tout se fait par réseaux sociaux, où nos jeunes vont être amenés à prompter de l'IA, etc. En réalité, s'ils n'ont pas un vocabulaire suffisant, s'ils n'ont pas une expression de qualité, eh ben ils seront marginalisés.
Laura.
Oui, moi je.
Rapidement, sinon.
Oui, oui. Laura qui n'a pas été à l'école. Hein.
Non, Laura n'a pas été à l'école. Non, mais moi je.
On l'a récupérée.
Voilà, donc il demande CM1. Rapidement, mais il me coupe la parole, vous voyez. Non, là, moi, je suis complètement d'accord avec vous sur la maîtrise de la langue. Ça sauve, ça nous donne une crédibilité, ça donne.
D'accord, mais vite la question, on a 30 secondes, Laura, donc vas-y.
Non, mais je suis juste d'accord.
Et ah bon, t'es d'accord, c'est pour dire que t'es d'accord, t'as pas de question.
Ça fait peut-être du bien à un ministre de temps en temps de nous dire
oui,
qu'on est d'accord.
C'est pas faux, ça.
Moi, je dis, lâchez rien sur l'orthographe. Je suis dyslexique, dysorthographique. La seule chose que je peux vous demander, c'est faites en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'orthophonistes, comme ouais. Ça se passe en Angleterre, où en fait, vous avez des orthophonistes vraiment qui vont dans le fond pour les gens qui bégayent, qui ont des réels problèmes d'élocution, mais ils ont fait comme un sous-diplôme des orthophonistes qui ne travaillent que la 10.
Que les 10.
Ce qui fait que ça désengorge. Moi, je vois, j'ai mis 3 ans avant de pouvoir voir une orthophoniste pour régler mes problèmes de dyslexie.
Alors, et on l'a fait court. Édouard Geffray, réponds, parce que vraiment, le temps est imparti.
Indépendamment du fait qu'on est d'accord, mais hyper intéressant. Et notamment, l'un des enjeux, c'est de faciliter l'accès des enfants à l'orthophoniste pour pas qu'ils aient à quitter les cours, à revenir, et en réalité, à rater 3 heures de cours quand ils font 45 minutes d'orthophoniste. Ça, c'est un enjeu majeur sur lequel on travaille actuellement. Mais je prends le point aussi sur le diplôme.
Merci Edouard. J'ai fait une dernière question.
Ouais.
Le bac, on continue ou on supprime?
Ah ben on continue. Pourquoi vous le supprimez?
Bah parce qu'on a l'impression qu'on va vers sa suppression. Parce qu'on réforme, il est de plus en plus court. Maintenant, il n'y a que 4 épreuves.
Non, mais faut arrêter de vouloir supprimer tout comme ça. Hein. Il y a un truc qui s'appelle les institutions qui ont fait leurs preuves. Et puis, les rites de passage et les examens qui permettent de certifier un niveau, c'est quand même pas fait pour les chiens. Donc, non, on garde.
Merci Edouard Geffray dans les grandes gueules sur RMC et RMC Story.